Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Mamassi, conseillère régionale d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, Mamassi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel et politique ? Vous habitez l'Essonne, vous avez été élue à Étampes, une ville assez éloignée de Paris.
Absolument. Alors je suis chef de service éducatif, j'ai un parcours d'éducatrice spécialisée de formation. J'accompagne les jeunes en insertion sociale et professionnelle, des jeunes allant de 16 à 30 ans, voire parfois 35 ans. Et politiquement, je suis conseillère régionale, ancienne agente au maire à la jeunesse de la commune d'Étampes et ancienne vice-présidente de l'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne.
Alors, vous avez souvent dit que vous vous battiez sur le terrain pour que notre quotidien soit meilleur. C'est cela pour vous le sens de l'engagement politique, le sens de votre engagement ?
Absolument, je me définis souvent et avant tout comme une militante associative. C'est vrai que je suis arrivée en politique, comme j'aime le dire, un peu par hasard, puisque je suis avant tout une militante associative, puis une éducatrice spécialisée, avant d'être une politique. Et j'ai accepté d'embrasser le milieu politique justement pour continuer à porter nos voix, à porter nos revendications, mais surtout à être force de proposition.
Alors, vous avez été élu au Conseil régional d'Île-de-France avec la majorité dirigée par Valérie Pécresse, mais vous êtes issu de la société civile. Quel est pour vous l'apport finalement des gens qui viennent de la société civile ? Pourquoi on fait appel à vous alors que vous n'êtes pas une professionnelle de la politique ?
Je pense que c'est justement parce que je ne suis pas une professionnelle de la politique qu'on a fait appel à moi. Valérie Pécresse a eu le choix lors de sa réélection d'intégrer la société civile parce qu'elle part du principe où aujourd'hui la société civile représente aussi une part des franciliens. D'avoir une identité politique, c'est une chose, d'appartenir à une identité politique, d'avoir un dogmatisme politique, c'est une chose, mais en même temps elle a eu cette volonté de rassembler, cette volonté d'unir à travers un projet, et elle a cessé de nous répéter justement que l'idée n'était pas forcément d'avoir uniquement des LR ou des UDI ou même du MoDem au sein de son parti, mais d'avoir des gens avec des parcours de vie différents, avec des envies différentes, avec des initiatives différentes, mais avec le seul et unique objectif de vouloir œuvrer dans l'intérêt commun et pour les biens des franciliens.
Alors on va parler de ce que vous faites au Conseil régional, on va parler de la situation en France, mais d'abord on va parler tout de même de ce qui se passe en Italie. Comment réagissez-vous aux élections qui viennent de se tenir et qui confirment ce qu'ont pressenté la victoire de l'extrême droite?
Écoutez, moi je trouve ça triste, mais en même temps je trouve ça prévisible. Honnêtement, ce qui est en train de se passer en Italie, c'est ce qui s'est passé même en Suède. Et aujourd'hui, c'est ce qui est à la porte de la France. Enfin, moi, je pense que oui, on peut parler aujourd'hui de politique étrangère, même si l'Italie aujourd'hui fait partie de l'Union européenne. Mais on peut même faire aujourd'hui un lien avec ce qui est en train de se passer en France. À force d'avoir divisé la nation, à force d'avoir mêlé, d'avoir créé ce sentiment de peur, ce clivage, les partis traditionnels ne répondent plus aux attentes de leurs administrés. Et comme refuge, les administrés se dirigent vers les extrêmes. On a pu le voir ne serait-ce que lors des dernières élections législatives ou dans énormément de circonscriptions. On s'est retrouvé au second tour, la France insoumise, face au Front National. Donc il y a un vrai sujet. Tant qu'on continuera à laisser certaines thématiques, certains sujets politiques pris à bras-le-corps, si je peux le dire comme tel, par certains partis, on se retrouvera dans ce genre de situation.
Il y a quelques jours, un invité de CNews a brandi une capture d'écran de la majorité municipale à Stains en affirmant qu'il n'y avait aucun Français de souche parmi les élus. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cet épisode. C'est un propos qui rappelle les théories d'Éric Zemmour. Cela vous inquiète finalement cette façon de stigmatiser des gens clairement en fonction de leur couleur de peau?
Mais bien sûr que c'est inquiétant. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on le laisse passer. Comment, sur des chaînes de grande écoute, on peut accepter, parce que même si M. Morandini, pour ne pas le citer, a tenté ce jour-là de mettre fin à ce qui est en train de se passer, le monsieur l'a quand même fait. Il a quand même été au bout de ses explications, allant jusqu'à insulter des élus de la République en leur disant qu'ils n'étaient pas légitimes. Ça veut dire quoi, Français de souche, aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait s'excuser d'avoir des origines. Et encore, je dis d'avoir des origines, mais c'est nos parents qui ont des origines. Parce que nous, moi, je suis né à l'hôpital des Tempes, personnellement, mais c'est vrai que quand avec un nom comme le mien, on comprend bien que je ne suis pas bretonne. Mais tout ça pour expliquer qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'imaginer la théorie du grand remplacement, parce que vous n'avez pas voulu le citer. C'est quelque chose de raciste, c'est quelque chose de dangereux.
Et il y a quelques années, Mamassi, de tels propos sur une chaîne de télévision auraient déclenché des manifestations, Place de la République. L'ensemble de la classe politique aurait condamné ce type de propos. Aujourd'hui, il y a une forme de banalisation de ce type de propos qui évoque justement le grand remplacement.
Mais c'est cette banalisation qui fait justement la montée des extrêmes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les extrêmes réussissent à monter ? Alors on va uniquement parler de l'extrême droite. Mais c'est parce qu'aujourd'hui on a légitimé aujourd'hui leurs propos. Aujourd'hui, ce n'est plus grave en France d'être raciste. Avant, le racisme, je le rappelle, est un délit. Sauf qu'on a tellement légitimé le fait qu'on a le droit de tenir des propos racistes et que ce n'est pas grave, qu'aujourd'hui, pour monsieur et madame tout le monde, c'est quelque chose qui semble normal. On peut insulter les gens ouvertement en lien avec leurs appartenances présupposées religieuses ou sexuelles ou autres. Ce n'est pas grave. Et bien moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment reprendre la main, reprendre les rênes et arrêter tout ce qui est en train de se passer parce que c'est extrêmement dangereux et on a tous vu là où ça nous mène.
Mamassi, nous allons parler des thématiques sur lesquelles vous travaillez en tant que conseillère régionale. Le gouvernement veut réformer les lycées techniques pour permettre aux jeunes issus de ces filières de se former davantage aux besoins des entreprises françaises aujourd'hui. Dans son premier mandat, Emmanuel Macron a réformé l'apprentissage, ce qui a permis d'augmenter considérablement le nombre d'apprentis en France. Est-ce que cela va dans le bon sens ? Cela peut permettre une meilleure insertion professionnelle des jeunes ? Valérie Pécresse est dans cette politique-là, elle aussi ?
Alors, au-delà de dire elle aussi, j'ai presque envie de dire elle est plutôt précurseur, parce qu'on a quand même mené au sein de la région Île-de-France, que nous on appelle aujourd'hui le RJA, le revenu jeune actif, qui avait justement vocation à orienter les jeunes vers les métiers sous tension et à justement se dire qu'on forme notre jeunesse avec une gratification autour de 4000 euros, mais par contre, on ne la forme pas n'importe comment, on l'accompagne vers les métiers sous tension et on l'accompagne à demain à avoir une débauchée professionnelle. Une débauchée, parce que si l'idée, c'est de se former, mais qu'une fois diplômé, on n'a pas de boulot, concrètement, on fait perdre le temps aux jeunes, on investit pour aucun résultat. Et donc, du coup, à la fin, on est tous perdants. Donc oui, ça va dans le bon sens. Je salue l'initiative et je serai très attentive, justement, et hâte de voir le résultat, notamment en termes de bilan.
Mamassi, sur les réseaux sociaux, vous mettez régulièrement en avant les aides qui existent au sein de la région Île-de-France pour aider les jeunes. La région, par exemple, finance le permis de conduire pour certains jeunes, mais il faut que l'information arrive jusqu'aux jeunes. C'est peut-être ça le problème.
Absolument, et vous avez parfaitement raison. Alors c'est vrai qu'à la région, alors depuis mon arrivée, je sillonne l'Île-de-France. Alors lorsque l'on a un mandat local, c'est beaucoup plus facile, parce que quand j'étais maire adjointe d'Étampes, les Étampois me connaissent. Donc pour m'interpeller en direct, c'est facile, soit via les réseaux sociaux, soit on récupère notre numéro de téléphone assez facilement. Lorsque l'on intervient à échelle régionale, c'est beaucoup plus compliqué parce que 8 départements, 12 millions de franciliens. Donc vous comprenez bien que tout le monde ne sait pas qui je suis ou alors qui sont leurs élus de référence. Donc on a effectivement, alors sur mes réseaux sociaux, j'essaye de le mettre de manière quotidienne parce que l'information doit arriver à notre jeunesse. Parce que vous parlez du permis de conduire, mais il y a énormément de dispositifs. Il y a le RJA, il y a Kios, qui est cette plateforme justement pour apprendre gratuitement les différentes langues, qu'on a d'ailleurs assez récemment fait évoluer. Maintenant, à travers notre plateforme Kios, on peut même apprendre les langages des signes. Donc, toutes ces informations-là, c'est des informations effectivement qui doivent arriver à notre jeunesse. Et c'est pour ça que nous sommes en train de réfléchir à une application jeune qui permettra justement aux jeunes, en temps réel, de pouvoir savoir toutes les aides à laquelle ils peuvent prétendre. Parce que on travaille pour notre jeunesse en réalité. C'est-à-dire que réfléchir à des actions, c'est pour changer leur quotidien. Si notre jeunesse ne bénéficie pas des dispositifs qu'on leur propose, eh ben finalement, nos dispositifs ne servent à rien.
Alors, j'aimerais aussi qu'on parle, Mamassi, de la crise énergétique, une crise qui va notamment concerner les petites entreprises qui ont déjà les plus grandes difficultés à payer leurs factures. Mais les conséquences sont aussi très lourdes pour les habitants des quartiers populaires. Il va falloir aider davantage les habitants de ces quartiers, comme on l'a fait notamment pendant la crise sanitaire.
Absolument. Alors, il y a eu un rétropédalage du gouvernement sur cette thématique, parce qu'effectivement, lors de l'ancien bouclier, donc jusqu'à 2021, les bailleurs sociaux n'étaient pas concernés. Or, lors de la dernière conférence de presse de Madame Borne, celle-ci a signifié que dorénavant, déjà le prolongement jusqu'à 2023, mais que les bailleurs sociaux seraient intégrés au plan justement du bouclier tarifaire. C'était poser la question de ceux qui se chauffent au gaz, ceux qui chauffent à l'électricité, ceux qui chauffent via le chauffage collectif et ceux qui se chauffent via le chauffage individuel. Aujourd'hui, ils ont fait une espèce de package où que ce soit sur du gaz ou sur de l'électricité, les habitants des logements sociaux seront concernés. J'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on a bien
vu... C'est une bonne nouvelle.
C'est une excellente nouvelle, parce qu'on a bien vu que pendant la crise Covid, pour les personnes qui étaient déjà en difficulté, ça les a mis dans des situations mais complètement... ça a été catastrophique. Donc quand on a des habitants qui vivent déjà sous le seuil de pauvreté, qui sont déjà en difficulté, un euro à la fin du mois, c'est un euro.
Et vous qui êtes une élue de terrain, vous avez évoqué le chauffage individuel et le chauffage collectif. Ça n'est pas une question anodine.
Non, ça n'en est pas une. Et c'est vrai que moi, je m'interroge énormément sur le sujet parce qu'on a bien vu qu'à travers les différents plans en rue, de plus en plus, les logements sont chauffés de manière individuelle. On n'est plus sur le collectif. Et je pense qu'effectivement, sur le long terme, c'est un vrai sujet parce qu'il y avait un intérêt à se chauffer sur du logement collectif. C'est qu'on partage les frais en réalité. Mais quand on demande aujourd'hui aux habitants d'avoir du chauffage individuel, il y a quand même cette volonté individualiste qui consiste à dire « chaque foyer devra se débrouiller ». Sauf qu'une fois de plus, rappelons les bases et les prémices du logement social. Les gens qui vivent dans des logements sociaux ne le font pas par plaisir, ils le font par besoin.
Alors cela fait bientôt un mois depuis la rentrée scolaire que des milliers de parents d'enfants en situation de handicap sont désemparés parce qu'ils n'ont pas obtenu les AESH qui leur permettent d'accompagner la scolarité de leurs enfants. La France est-elle très en retard sur l'école inclusive par rapport à d'autres pays européens, Mamassi ?
Bien sûr que oui, honnêtement, moi j'ai honte. J'ai honte de la manière dont la France aujourd'hui traite le handicap. Honnêtement, je regardais récemment un reportage et une analyse sur ça, on parle de 18%, je parle d'enfants non scolarisés. Moi, je sais que, notamment sur ma commune, à plusieurs reprises, j'ai eu affaire à des mamans en pleurs, désemparées, qui me disaient « mais je suis épuisée parce que des enfants autistes à la maison, des enfants autistes de la trisomie ou autre, et avec aucune solution. On n'arrête pas de parler d'inclusion, on nous le sert à toutes les sauces ». Mais sauf qu'aujourd'hui, il faudrait que le mot « inclusion » soit plus qu'un mot, qu'on puisse accompagner ces familles. Parce que je ne cesse de le dire, la République, c'est aussi eux. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, des parents se doivent d'aller en Belgique pour aller scolariser leur enfant. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, ce soit les collectifs de parents qui créent des institutions aujourd'hui en France pour pallier à des manquements, clairement, de l'État. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, qu'aujourd'hui, ce sujet-là, il faut le mettre sur la table. Et la question du handicap ne doit pas concerner que les personnes en situation de handicap. On se doit tous d'être concernés, de taper du poing sur la table et de dire « mais ils font partie de notre République, aidons-les ».
Vous nous dites que les collectifs de parents jouent un rôle majeur justement pour l'organisation d'écoles alternatives ?
Absolument. Aujourd'hui, la plupart des ITEP ou autres instituts médico-sociaux qui sont montés aujourd'hui le sont avant tout par des collectifs de parents qui, à un moment donné, en ont eu marre peut-être de se retrouver dans une situation où ils se devaient eux-mêmes de gérer leur enfant avec diverses pathologies, diverses problématiques. Et vous savez, toutes les personnes qui travaillent autour de ces enfants en difficulté sont des vrais professionnels. On y voit des éducateurs spécialisés, il y a des psychomotriciens, il y a besoin d'un accompagnement spécifique, donc accompagnons ces personnes.
Finalement, à travers l'exemple des parents d'enfants en situation de handicap, vous nous montrez que la société civile a un rôle à jouer dans la politique, ne serait-ce que pour interpeller les élus, mais aussi parfois pour faire des propositions.
Moi, je pars du principe où, de toute façon, en tout cas, les propositions qui émanent du terrain sont souvent les plus performantes, dans le sens où les gens savent de quoi ils parlent. Ils le vivent au quotidien. C'est toujours plus facile de parler d'un sujet qu'on a vécu que de parler de sujets qu'on pourrait imaginer ou fantasmer. Donc moi, je suis très attachée justement à la parole de la société civile. C'est la raison pour laquelle je vais tout le temps au contact des associations, des institutions également, de nos commerçants, de notre jeunesse, parce que je sais que sur le terrain, il se passe de choses merveilleuses, qu'on a tout à apprendre de la société civile et que justement, on continuera à porter leur voix aux plus hautes instances.
Mamassi, justement, le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée des associations dans toutes les villes. Les associations aujourd'hui, c'est ce qui permet de faire vivre le vivre ensemble, justement.
Ils participent au vivre ensemble, bien sûr, mais pas que. Ils font aussi énormément de choses pour changer le quotidien des gens, à travers le sport, ça peut être à travers l'éducatif, ça peut être à travers des actions de solidarité. Ils participent surtout à l'émancipation, ils participent à la construction identitaire. Et c'est vrai que pour moi, je suis très attachée à notre tissu associatif parce que sans les associations, il n'y aurait pas de nation.
Alors, vous êtes une élue du Conseil régional d'Île-de-France, mais vous avez été longtemps élue à la mairie d'Étampes. Finalement, Étampes est un exemple aussi de ce qu'est une ville de grande banlieue. C'est important aussi de parler de ces villes qui sont aux confins de la région Île-de-France.
Bien sûr, surtout qu'on a tendance à nous associer en nous disant « vous êtes à la limite du 45 ».
De Loiret.
Voilà, on nous dit tout le temps. Mais oui, bien sûr. Et en plus, on a sa spécificité. Alors moi, j'ai cette chance d'être étampoise parce que Étampes, c'est entre l'urbain et la ruralité. Donc Étampes, c'est une petite France en vérité. Et le fait de côtoyer justement des milieux qui ne sont pas forcément les mêmes et avec des problématiques qui sont différentes nous oblige à prendre de la hauteur et à avoir un regard réel sur ce qui est le monde aujourd'hui. Et je trouve que c'est extrêmement formateur.
C'est ce qui explique, par exemple, que vous anticipiez la montée de l'extrême droite en Italie ou en France. C'est que ce sont des problématiques que vous voyez aussi sur le terrain.
Bien sûr. Vous savez, on est entre la ruralité et l'urbain. Donc, on entend parler tout le monde. On entend que les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais ce que j'entends surtout, moi, c'est les inquiétudes. On est aujourd'hui dans un pays où les gens ont peur. Ils ont peur de pas avoir assez à manger à la fin du mois. Ils ont peur de perdre leur travail. Ils ont peur de leurs voisins. Ils ont peur aujourd'hui de sortir de chez eux et de se demander s'ils vont se faire agresser ou pas. Et je me dis que justement, c'est cette crainte-là qu'il faut entendre. Et c'est comme ça qu'il faut créer des actions. C'est pas anodin, hein, l'action que j'ai créée, la rencontre entre les agriculteurs et les jeunes des quartiers politiques de la ville, où on avait demandé aux agriculteurs de venir sur Clichy-sous-Bois distribuer des denrées, et avec un acte 2 où les jeunes allaient aller chez les ruraux. C'est parce que je pense qu'il faut créer des rencontres. Il faut, à un moment donné, créer des instances où les gens se parlent.
Donc l'enjeu aujourd'hui pour les politiques, c'est créer du lien pour éviter ce climat de division et de haine.
C'est créer du lien, c'est faire nation et c'est arrêter de mentir aux gens. Quand je dis arrêter de mentir aux gens, je n'ai pas envie de mesurer mes propos. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas des sujets qui doivent être exclusifs à certains partis. On se doit de parler à tout le monde, on se doit de parler de tous les sujets. Et surtout, arrêtons la démagogie, parlons vrai, parlons concret. Parce que ce que monsieur et madame tout le monde voient, on voit la même chose.
Merci, Mamassi. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Barrière, et merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.